cours de philosophie première par le Père Marc-Dominique Philippe, le 14 février de l'an 2001, à Saint-Jeudard.
C'est bien, Jules, parce qu'il faut entrer dans ce qui a le sommet de notre recherche métaphysique. La preuve de l'existence de Dieu repose là-dessus. Il faut bien se dire ça. Et plus on verra avec détail la différence entre l'être, l'esprit, la vie. Vous voyez, l'esprit se situe en intermédiaire. C'est par l'intelligence que je saisis la différence entre l'être et la vie. Et dans mon intelligence, il y a la vie et il y a l'esprit. Il y a les deux. Et donc, c'est toujours ce problème de l'intelligence auquel il faut revenir. On a une conception de l'intelligence souvent, très souvent, dans notre monde d'aujourd'hui, comme un raisonnement. Et c'est pour ça qu'on aime tellement les conclusions. Parce que la conclusion, c'est le fruit du raisonnement. Et on aime toujours bien les fruits. Et on ne voit pas ce qu'est l'intelligence. La raison n'est jamais pauvre. Elle cherche la richesse, l'efficacité, la domination. C'est l'intelligence raisonnable. C'est l'intelligence qui, très souvent, domine dans notre vie. Et on a beaucoup de peine d'entrer dans l'intellectus. Alors, voyons les questions. Mon père, si la substance, c'est une forme de l'être, peut-on dire que la substance est en vue de l'acte? Faisons attention, hein. Ne mêlons pas tout. Voyons bien ce que c'est que l'analyse de l'intelligence. C'est une opération de l'intelligence, l'analyse. C'est une opération de la raison. Il y a des analyses scientifiques et il y a des analyses métaphysiques. L'analyse est un procédé de rechercher les causes, les principes, ce qu'il y a premier, de rechercher un lien de nécessité pour la raison. Pour la raison, c'est un lien de nécessité. On ne quitte pas la relation. On voit que si je pose telle donnée, nécessairement il y aura telle autre donnée. Antécédent et conséquent, ou conséquent et antécédent. C'est ça la loi. La loi est une relation, c'est pas un principe. C'est une relation entre antécédent et conséquent. Il y a un lien de nécessité entre ces deux. Et on a beaucoup de peine d'entrer dans le mode analogique de l'intelligence. Et dans l'intelligence, on retrouve, parce que notre intelligence n'est pas intuitive. Si notre intelligence était intuitive, on n'aurait pas d'analyse. C'est ce que vous avez dans Maritain. Maritain dit qu'il y a une intuition de l'être. Moi, je dis qu'il y a une analyse de l'être. Et Maritain, il y a une intuition de l'être. Donc il n'y a plus d'analyse. Il n'y a plus que des descriptions. Alors ça ne forme pas. L'analyse forme. Vous voyez ? Et c'est vrai, c'est une manière de, pour notre intelligence de pouvoir avancer. Alors, l'analyse forme. Au point de vue analyse, on se pose la question, quel est le premier pour l'être en tant qu'être ? Quel est ce qu'il y a de premier du côté de la cause formelle, c'est-à-dire de la détermination ? J'aime mieux dire détermination que forme. La forme détermine, oui c'est très vrai, la forme détermine. Mais elle détermine très différemment quand c'est la forme qui détermine la matière et quand c'est la forme qui détermine l'être. Vous comprenez bien, hein ? C'est pas la même forme. D'un côté, vous avez la forme qui détermine la matière, elle est principe de devenir, du devenir. Parce que la matière est actuée par le devenir. Il n'y a jamais d'acte pur dans la matière. C'est toujours le devenir. Et puis, vous avez la détermination de l'être, qui est le principe substance. Alors, vous voyez, c'est pour ça que c'est équivoque si vous dites si la substance c'est une forme de l'être. Oui, c'est une forme de l'être, mais prenez bien, comprenez bien, c'est la détermination première de l'être. La détermination première de l'être, c'est la substance. La substance est principe. Principe parce qu'elle est la première dans l'ordre de la détermination et dans l'ordre de l'être, pas dans l'ordre du devenir. Dans l'ordre du devenir, il y a aussi un premier dans la détermination, c'est la forme qui informe la matière. Peut-on dire que la substance est en vue de l'acte ? Alors vous voyez, la substance est principe. Donc un principe n'est pas en vue de. Si vous mettez le principe en vue de, vous relativisez le principe. Alors il n'est plus principe. Un principe, il est principe. Il est premier dans l'ordre de l'être. C'est l'être qui est en vue de l'acte. Je comprends très bien qu'alors ça vous bloque, parce que vous situez mal la chose. Si vous mettez la substance en vue de l'acte, vous relativisez la substance. Vous comprenez que la substance est première dans l'ordre, mais la première de l'être, et l'être n'est pas épuisé dans son intelligibilité par la découverte de la substance. L'être est plus que la substance. La substance est pour connaître l'être. C'est le premier de la détermination dans l'ordre de l'être. Et je peux me poser, n'y a-t-il pas dans l'être un premier dans l'ordre de la finalité ? Et j'ai là. Donc, cette question est très juste et très astucieuse. Je vous ai montré que lorsqu'il s'agit du vrai et du bien, le vrai et le bien sont deux absolus. Comment se fait-il qu'ils s'unissent ? Ah, parce que le vrai est être et que le bien est être. N'oubliez jamais que la recherche métaphysique, c'est toujours l'être. Et donc, dans l'analyse que je fais de l'être, je reviens toujours à l'être. Qu'est-ce qu'il y a de premier au point de vue détermination dans l'être? Qu'est-ce qu'il y a de premier dans la recherche de la finalité dans l'être? C'est donc toujours la connaissance de l'être. Et la substance, à sa manière, elle est substance, elle est première, elle est principe. Elle est principe selon la causalité formelle. Et l'acte est principe selon la causalité finale. Vous avez deux points de vue distincts qui ne sont pas séparés. La substance n'existe pas toute seule. La substance existe dans l'être. Et si vous avez l'être en acte, cette substance existe. Parce que vous regardez l'être en acte. Et vous n'allez pas me dire la substance est acte par l'acte. Mais non. Ce serait supprimer la recherche propre de l'analyse de ce qui est premier. Vous voyez, l'analyse nous a mis séparation, c'est une distinction que vous faites dans la recherche de l'être. Vous voulez connaître et vous voulez aller le plus loin possible dans la connaissance. Et pour aller le plus loin possible dans la connaissance, il faut saisir ce qui est premier. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la détermination? Est-ce la qualité? Est-ce la relation? Est-ce la quantité? Vous avez toutes sortes de philosophies qui mettent ce qui est premier dans l'être, la quantité. Ce qui est premier dans l'être, la relation. Ce qui est premier dans l'être, la qualité. Et vous pouvez mettre à ce moment-là des noms. Ce qui est premier dans l'être, la quantité, le marxisme. Le marxisme ne dépasse pas la quantité. C'est fatigant de parler à un marxiste. Il ne dépasse jamais la quantité. C'est pour ça que le suffrage universel est absolu. Quand on l'accepte, on le truc, on arrive à faire voter des morts, parce que la quantité, c'est absolu, alors qu'il soit mort, qu'il ne soit pas mort, la quantité. Faites voter des morts. Si vous mettez quelque chose au-dessus de la quantité, vous voyez que c'est stupide de faire voter des morts. Si vous êtes dans la quantité pure, très bien, prenez tous les trucs possibles pour faire que ça soit plus. La relation est première dans un moulin, dans Hegel. Ne dépasse pas la relation. La qualité est première. Dans Hegel, il y a à la fois la relation et la quantité et la qualité. C'est la féminologie, mais la qualité, la valeur au-dessus de tout. Dans les inédits du Serle, qui sont à Louvain et qui sont la richesse de Louvain, dans les inédits du Serle, qui n'ont jamais été publiés du vivant du Serle, Dieu, c'est la valeur suprême. Donc ça montre bien que la philologie ne dépasse pas la qualité et la relation. C'est la relation dans la qualité. Il y a les deux. Et c'est très intéressant, une fois que vous avez compris vraiment ce qui est premier dans l'ordre de la détermination, ce qui est second dans l'ordre de la détermination, c'est la qualité. Après l'être, c'est la qualité. Ce qui est le plus débile dans l'ordre de la détermination de l'être, la relation. Pourquoi ? parce que vous avez la relation réelle et la relation de raison. Ils sont toutes les deux relations. Ce que votre intelligence peut créer, ce sont des relations. Vous ne pouvez pas créer autre chose. Vous ne pouvez pas créer la vie, non. Vous pouvez créer la relation. Si vous êtes un génie, vous allez créer la relation. Et Hamelin, philosophe de la relation, les mathématiques conduisent à un primat de la relation. C'est vrai, les mathématiques, il y a un primat de la relation. L'être mathématique est relationnel. Donc, là, vous voyez, faites attention, le principe n'existe que dans votre intelligence. Il existe dans la réalité, mais dans la réalité, il existe avec autre chose. Vous n'avez jamais vu un principe exister tout seul. Si vous voyez la substance se balader, exister, vous auriez Spinoza. Spinoza fait que la substance se balade. Et que la substance, toutes les substances restent. C'est uniquement un mode. Alors, il oublie la différence entre le principe et la réalité. Le principe existe dans la réalité, mais il n'est formellement comme principe que dans mon intelligence, par l'analyse. Dans l'analyse, j'atteins la substance. Elle est réellement mon âme, elle est réellement en moi, mais je la saisis comme principe par mon intelligence. Pour mon intelligence, l'âme est principe. Elle est principe comment ? Dans l'ordre formel, elle détermine le corps. Elle détermine le corps. Toutes les déterminations du corps sont la chair. Le corps est déterminé par l'âme. Or, on veut connaître le corps sans l'âme aujourd'hui. Alors, voyez ce qu'on connaît. On connaît abstraitement le cadavre. Autre chose est la distinction, autre chose la séparation. C'est toujours ça, on revient tout le temps à ça. Si vous comprenez que la substance est distincte de l'acte, mais elle n'est pas séparée. Une substance qui existe en moi est acte. Mon âme et ma substance et mon acte. Je ne dis pas que l'âme, en tant que substance, est ordonnée à l'acte. Non, elle est acte. En moi, mon âme est acte. Et elle est substance. Vous voyez ? Et c'est en ça qu'on dit abstraction, c'est pas l'abstraction. C'est la distinction. Il faut arriver à comprendre la différence entre distinction et séparation. Je sais très bien que Don Scott dit que toute distinction est séparation. Et Don Scott n'est pas un imbécile. Il est un vénérable. Et donc nous devons l'aimer comme un saint. Mais en tant que philosophe ou théologien, on dit il a fait une grave erreur. Il n'a pas maintenu la distinction entre la distinction et la séparation. Pour lui, la cause finale, elle est métaphorique. Justement, à cause de ça, elle est métaphorique. C'est la conclusion directe. Il ne distingue pas dans la finalité que la finalité détermine. L'autre question. Dans l'avant-dernier cours, je localise, vous disiez que la parole, l'intentionnalité de notre concept n'atteint pas l'être de la réalité. Oui, atteint l'être de la réalité, elle atteint. Quand vous jugez, vous touchez l'être, mais intentionnellement, pas avec votre main. Vous touchez l'être intentionnellement. Donc, vous voyez, ne séparez pas l'intentionnalité et l'être. Tout ce qui est, je peux, est intelligible. Donc, est source d'intentionnalité. Alors, j'ai sûrement pas dit ça. Au dernier cours, c'est ad modum recipientis. Vous l'avez reçu comme ça. C'est très bien, c'est très bien, il faut le dire ça. Il faut avoir l'audace de dire comment on l'a reçu. Dans l'avant-dernier cours, vous disiez que la parole et l'intentionnalité de notre concept n'atteint pas l'être de la réalité, mais son intelligibilité. Atteindre son intelligibilité, c'est atteindre l'être de la réalité, mais pas selon son mode de réalité, mais selon son mode intentionnel. Le modus et la ratio, le modus. La ratio d'être contient ces deux modalités. L'être est ou saisi intentionnellement ou existe réellement. La ratio intis est commune à ces deux modalités diverses. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'intelligence qui atteint l'être du réel, très juste, que c'est l'intelligence qui atteint l'être du réel à travers l'énoncé du jugement d'existence? Oui, à travers l'énoncé, à travers l'intentionnalité, elle l'atteint réellement. Dans un jugement d'existence portant sur une réalité, un jugement d'existence portant sur une réalité. Ceci est. Ceci est un homme. Et ce qu'il y a de saisi, simultané, de l'être, ce qu'il y a, et ce qu'il y a, une saisie simultanée de l'être, de cette réalité et de son intelligibilité. C'est plus que simultané, c'est la réalité. L'être est intelligible. Et quand vous connaissez son intelligibilité. Et donc vous connaissez l'être. Par son intelligibilité, mais c'est l'être. Pouvez-vous revenir sur la distinction de l'être et de l'intelligibilité de la réalité? Et de quelle manière l'intelligibilité du réel est saisi par l'intelligence. Merci, bonne journée. Bon cours. C'est très juste, très juste. Cette question, et il faut se la poser. L'être est par lui-même intelligible. Cette intelligibilité est actuée, elle est explicitée quand je la connais. L'être existe avant moi. Le petit crapaud, il existe avant moi. Il est indépendamment de moi. Mais le petit crapaud, il a son intelligibilité de crapaud. L'intelligibilité du crapaud n'est pas la même que l'intelligibilité de l'araignée. chaque être a son intelligibilité par son être, par sa détermination, parce qu'il est telle espèce. L'âne a son intelligibilité d'âne. La vache aussi, et l'éléphant, toutes les réalités. L'être est intelligible. Quand je le connais, j'actue son intelligibilité en le connaissant. Cette intelligibilité détermine mon intelligence, détermine mon concept. Je le saisis. Et en le saisissant, je distingue cette intelligibilité en tant que pensée et l'être en tant qu'existant. Je distingue les deux. Je ne sépare pas. Je les distingue. Son intelligibilité me permet de le penser. Et en même temps, je le respecte en tant qu'il est en dehors de moi, en tant qu'il existe, premièrement, et qu'il détermine mon intelligence. Ce qui est vrai du crapaud est vrai de mon voisin. Mon voisin, il est intelligible pour moi. Son intelligibilité, je la respecte. Chacun d'entre nous, nous avons notre intelligibilité unique. C'est vrai. Autrement, on ne serait pas distinct des autres. Et on la saisit, cette intelligibilité. Dans l'amitié, je saisis cette intelligibilité. Par l'amour, je saisis son intelligibilité plus profondément que si je ne l'aime pas. Quand vous allez chez le médecin, il essaie de saisir votre maladie. Votre maladie, c'est votre non-intelligibilité. Puisque le mal n'a pas de forme, mais il existe. Et vous saisissez le mal qui est en vous. Et c'est distinct de vous. Mais ce n'est pas séparé. C'est vous qui portez ça. Donc, l'intelligibilité est actuée par mon acte d'intelligence. C'est ça l'objectivité. C'est que la réalité est intelligible. Vous voyez ? Elle est intelligible, elle est pour moi. Dieu l'a pensée. C'est parce que nous sommes tous le fruit de la sagesse de Dieu que nous avons tous, chacun d'entre nous, une intelligibilité. Autrement, nous dirions que Dieu nous a abandonnés, que même pour Dieu, on est n'importe quoi, pas du tout. On est connu de Dieu, et connu dans notre individualité, dans notre personnalité, dans ce qu'est le plus nous-mêmes. Nous sommes connus et aimés de Dieu. Et nous pouvons être connus et aimés de notre frère. Et nous savons très bien que notre connaissance et notre amour peut aller toujours plus loin. J'arriverai jamais à connaître mon frère avec la même netteté que Dieu, avec la même profondeur que Dieu, mais cherchant, et par la charité, j'ai une possibilité de l'aimer comme Dieu l'aime, et donc de le connaître comme Dieu le connaît. C'est la grande supériorité du chrétien par rapport au philosophe. Alors vous voyez, c'est ça qui montre que la philosophie réaliste a quelque chose de vrai, c'est parce que la foi vient confirmer ça. La foi me dit que chacun d'entre nous, notre âme est créée par Dieu. Il y a un regard de sagesse de Dieu sur moi. Et ce regard de sagesse de Dieu sur moi, par la charité, Jésus nous demande de nous aimer comme il nous aime. Ah, ça prouve que nous avons la possibilité de connaître la personne comme Dieu la connaît. Or, la grâce ne supprime pas la nature. Ça prouve que déjà, au point de vue nature, je peux connaître l'individu comme Dieu le connaît, par l'être. Puisque Dieu crée l'être de mon âme. Vous voyez, c'est là où on voit que la philosophie réaliste a cet immense avantage que la foi vient achever, ennoblir ce que ma philosophie dit. Et qu'il n'y a pas de contradiction. Alors, dans notre recherche métaphysique, nous cherchons à connaître ce qu'est l'être selon ses causes propres. Disons l'être, nous essayons de connaître l'être selon ce qu'il y a en lui de propre, ses causes propres, ses principes d'abord. Puis on voit que les principes sont causes. Est-ce que l'être est un concept analogique de l'intelligence, que l'intelligence abstrait, j'aime pas dire abstrait, sépare à partir de nos expériences des multiples réalités particulières qui existent? Oui. Toutes ces réalités particulières qui existent ont quelque chose de commun. Un dikoinon, quelque chose de commun, elles sont. Et c'est là la parole d'Aristote quand il dit l'être se dit de multiples façons. Il y a Pierre, Jacques, Jean, Édouard, Côme, Damien. Agathe, Cécile. La diversité. Et je cherche le dikoinon, ce qui est commun. Pierre existe, Jacques existe, ils existent. Chacun à leur manière. Si c'est vrai, le to einein, anthropo, d'Aristote, l'être à l'homme, l'être à Pierre, l'être à Jacques. Si l'être est un concept, est-ce qu'il est universel et intentionnel? L'être n'est pas un concept. L'être, il est dans la réalité. L'intelligibilité de l'être est un concept. Par l'être existant de tel individu, j'arrive à me former un concept analogique de l'être. Ce concept analogique implique cette diversité. Mais il est au-delà de la diversité, puisqu'il est commun. Vous voyez la difficulté. Il part de la diversité pour saisir ce qu'il y a de commun. Et c'est pour ça que toute expérience nouvelle m'enrichit métaphysiquement. Mon concept d'être, il s'enrichit tout le temps. Et chaque fois qu'il s'enrichit, je saisis mieux ce que c'est l'être. Et il s'enrichira alors bien plus dans la vision béatifique. Alors, si l'être est un concept, je ne dis pas ça, si l'être, je connais la réalité dans son être, en me formant le concept d'être. Est-ce qu'il est universel et intentionnel? Non. Il est universel, mais analogique. Pas universel, univoque, qui serait le genre. Est-ce qu'il est intentionnel? Oui, c'est l'intentionnalité, c'est sûr. Mon concept d'être est concept d'être, donc il est intentionnel. Est-ce que la saisie de l'être est différente que l'appréhension de blancheur à partir des réalités blanches? Oui, parce que blancheur est univoque, être est analogique. Blancheur est univoque, c'est une qualité. La blancheur n'est pas la rougeur, n'est pas la verdâtre. Donc c'est univoque. Alors l'abstraction est très différente. Je dis, blancheur est abstrait, de blanc. Je saisis le blanc de la neige. Je saisis le blanc d'un produit de lessive particulier où je saisis le blanc de la blancheur de ma chemise. Et ça fait une réclame. Je saisis le blanc du visage de quelqu'un, d'un enfant malade, il est blanc. Je saisis le blanc du cadavre. Je saisis le blanc du cheval blanc. Le blanc du cheval blanc. Vous saisissez dans la foi. Il n'y a pas de concept nouveau. Donc le blanc du cheval blanc, vous l'avez saisi philosophiquement et vous le transposez pour le cheval blanc. La foi ne nous donne pas de nouveaux concepts. Arriver à saisir ça, hein, mais un nouveau jugement. Le cheval blanc, pour moi, comme chrétien, il existe. C'est le Christ. Et pour le philosophe, le cheval blanc est une métaphore magnifique. Pour l'artiste, le cheval blanc est quelque chose de merveilleux à exprimer, à montrer, une image merveilleuse. Le concept d'être n'est pas abstrait, puisque l'être est singulier. L'être est singulier. L'être n'existe que dans le singulier. Donc l'être n'est pas abstrait. Il est séparé de ses modes. Il est, non, pas séparé, il est distinct de ses modes. Et il est séparé puisqu'il existe dans mon intelligence. Mon concept d'être existe dans mon intelligence. Il n'existe pas dans la réalité. Comme concept, comme intentionnalité, il n'existe que dans mon intelligence. Et il existe dans la réalité comme individu singulier. Donc, alors vous voyez, si l'être est un concept, est-ce qu'il est... Bon, l'être, je ne peux pas dire que l'être est un concept. L'être, c'est la réalité singulière. L'être, quand je le connais selon un mode intentionnel. Selon un mode universel, mais il y a deux universels. Il y a deux universaux, il y a l'universel univoque et il y a l'universel analogique. Il se dit de multiples façons. Est-ce que la saisie de l'être est différente que l'appréhension de la blancheur? Oui. Il y a une abstraction formelle, distincte de l'abstraction universelle. Et cette abstraction formelle n'implique pas l'abstraction universelle. C'est universel, mais analogique. Donc, contenant le singulier, l'être singulier, il est à partir des réalités blanches, je conçois la blancheur. À partir de tous les êtres, tous, et l'être singulier, je conçois l'être. J'arrive à concevoir l'être. Et mon concept d'être, il s'enrichit tout le temps. Quand je connais un éléphant, je connais mieux ce que c'est que l'animal. Et je connais mieux ce que c'est que l'être. L'être à l'éléphant. Alors, je l'ai connu avant. Je l'ai vu dans un zoo. J'ai très bien vu que dans un zoo, l'éléphant est malheureux. Parce que éduquer un éléphant, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour vivre dans un zoo, l'éléphant. C'est pas Dieu qui l'a fait vivre dans un zoo, c'est l'homme. Et l'homme, en faisant ça, aime cet éléphant d'un amour qui n'est pas pour l'éléphant, mais qui est pour lui. C'est vrai, c'est bête. Dans un zoo, on a envie d'être libérateur, théologie de la libération de l'éléphant. Vous voyez d'où vient la théologie de la libération? Enfin, nous avons vu que le désir ne se saisit philosophiquement que par là. Nous avons vu que le désir n'est parfaitement intelligible, ça ne se saisit philosophiquement que par là. Pouvez-vous éclaircir philosophiquement la pauvreté dans la lumière de l'acte, elle qui n'est pas d'abord une négation, mais un esprit. Alors, faites attention, la pauvreté n'est pas premièrement un esprit. Ça, vous dites ça en chrétien. C'est la béatitude. Mais la pauvreté de celui qui n'a pas mangé, c'est pas un esprit. C'est une réalité. Il lui manque la nourriture. C'est un manque. Et ce manque ne peut être connu que par la possession. Celui qui manque de pain, qui n'a pas de manger, qui ne peut pas prendre son petit déjeuner le matin, il est pauvre. Il lui manque le pain. Ben oui, il lui manque le pain. Vous dites qu'il a ce manque parce que vous avez vu que Dieu du pain. S'il n'y avait pas de main, vous direz, il manque de riz. Il y a la pauvreté. La pauvreté est d'abord un manque. Et ce n'est que par la grâce chrétienne qu'elle devient un esprit. La pauvreté n'est pas d'abord un esprit. Elle est d'abord un manque. Toute pauvreté. Et on conçoit ça très bien, c'est qu'on a beaucoup de peine à faire que ce manque devienne spirituel. Ça exige d'offrir ça à Dieu pour qu'il devienne esprit. Donc, il devient esprit par l'acte d'offrande. Je l'offre à Dieu. Mon petit déjeuner, il me manque terriblement. Si je suis chrétien, je peux l'offrir à Dieu. À ce moment-là, il devient esprit et je l'ai dépassé. Il ne faut pas que l'aspect chrétien des béatitudes enlève la réalité divine, la réalité humaine. La foi ne me donne aucun concept. Donc elle ne télesque pas, elle ne supprime pas le manque réel. Le manque réel existe. Mais je peux le transformer par l'offrande à Dieu et qu'il devienne un esprit.